BW. Vue d'Allemagne.
Ich frage den Abgeordneten Brandt, nehmen Sie die Wahl an?
Ja, Präsident, ich nehme die Wahl an.
21 octobre 1969, il y a 50 ans cette semaine, Willy Brandt est élu chancelier de la République allemande de l'Ouest. Premier chancelier du SPD de l'après-guerre, il reste une figure dans la vie politique allemande jusqu'à aujourd'hui. On revient sur son parcours dans un instant. Et puis dans la seconde partie de Vue d'Allemagne, en cette période de vacances scolaires en Rhénanie du Nord-Westphalie, on vous emmène en voyage. Voyage très particulier en Grèce où on fera de l'archéologie sous-marine, s'il vous plaît. Vue d'Allemagne, willkommen, je vous souhaite la bienvenue. Los geht's, c'est parti.
Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen.
Je jure de consacrer mes forces au bien du peuple allemand. Prestation de serment de Willy Brandt le 21 octobre 1969 à Bonn, en République d'Allemagne de l'Ouest à l'époque. À 56 ans, ce jour-là, Willy Brandt devient le premier chancelier social-démocrate du SPD de l'histoire de l'Allemagne d'après-guerre. Un personnage qu'il faut, pour le comprendre, observer, je vous le propose, déjà plusieurs années en arrière. C'est sous le nom de Herbert Frahm que naît Willy Brandt en 1913 dans une famille modeste. Et très tôt, le jeune homme se politise. Il adhère au Parti social-démocrate, le SPD, à l'âge de 16 ans à peine. La Première Guerre mondiale est alors terminée, mais la Seconde se prépare déjà. Hitler arrive au pouvoir en 1933. Willy Brandt est alors déjà très actif en politique et compte parmi les opposants. Il prend la décision de fuir en Norvège, sera même déchu de la nationalité allemande. C'est dans ces années-là qu'il troque son nom natal, Herbert Frahm, pour celui de Willy Brandt. De l'extérieur, il résiste donc. Willy Brandt écrira « Hitler n'est pas l'Allemagne ». Il travaille et publie pour la résistance de l'intérieur pour informer à l'international, dans la revue « Allemagne invisible » par exemple. Et puis il fuit en Suède depuis la Norvège quand les troupes nazies envahissent la Norvège justement. La suite, vous la connaissez, la guerre dure. Mais l'État nazi est vaincu en 1945. Willy Brandt rentre alors définitivement en Allemagne en 1947. Il prend définitivement son nom et débute la seconde période, pourrait-on dire, de sa carrière politique au parti SPD, au Bundestag ouest-allemand à Bonn. Le jeune radical socialiste qu'il était à 20 ans s'est mué en social-démocrate pragmatique et réformiste, écrit une professeure en études germaniques pour parler de cette période. Willy Brandt devient même maire de Berlin en 1957, dans la ville symbole de la division entre bloc occidental et bloc communiste. Il met alors pleinement en action sa politique d'ouverture vis-à-vis de l'Est communiste. La politique des petits pas, des discussions, des rencontres. Une ouverture pour décrisper la tension entre les deux parties de la ville et les deux blocs, comme le raconte aujourd'hui Klaus Peterzik, historien actif au centre Marc Bloch à Berlin et à Paris notamment.
Je pense que Willy Brandt était un homme sentimental. C'est un homme proche des citoyens, proche des Berlinois de l'Ouest. Et ce dont il s'agissait pour lui, c'était des petits pas qui assouplissaient cette rigidité des relations germano-allemandes après la construction du mur. Donc faciliter les rapports sous forme de visites, si c'était possible, d'abord les personnes âgées, etc. Vraiment des petits pas envers une flexibilité au quotidien, je dirais. Mais ceci dit, il n'a jamais nié son opposition assez nette avec la dictature est-allemande.
Et cette politique paie malgré les oppositions. Des accords sont signés avec l'Est. Willy Brandt plaide aussi la cause de Berlin lors de ses voyages à l'international. C'est sous son mandat de maire que viendra notamment à Berlin le président américain Kennedy prononçant son fameux discours.
As a free man, I take pride in the words, ich bin ein Berliner.
Ich bin ein Berliner, je suis un Berlinois, discours prononcé en 1963. Deux ans auparavant, en 1961, Willy Brandt avait échoué à se faire élire chancelier. Même chose en 1965, l'histoire se répète. Mais en 1966, il passe de maire de Berlin au poste de ministre des Affaires étrangères. L'occasion pour lui de mettre en avant, à un niveau plus élevé, sa politique des petits pas, cette politique d'ouverture. Et puis, en 1969, Willy Brandt accède enfin au poste de chancelier. Un vrai tournant qu'explique Klaus Peterzik.
Willy Brandt était un personnage tout à fait contesté par la partie la plus conservatrice de l'électorat allemand, de la société allemande, en particulier par son grand adversaire rhétorique, c'est Franz Josef Strauß, le ministre-président du Land de l'État de Bavière. Et c'était donc effectivement, vous savez, le contexte de 68, donc une libéralisation, c'est une sorte de révolution intérieure, le contexte de la société, de la République fédérale. Et ce qui reste de Willy Brandt, c'est son adage de oser plus de démocratie. C'est l'un des deux mots qui reste aujourd'hui présent à la mémoire des Allemands, comme sa phrase après la chute du mur. Maintenant, se rapproche et se joint à nouveau ce qui a été trop longtemps séparé et ce qui naturellement est un. Et alors, oser plus de démocratie, c'était le contexte de l'époque, et Willy Brandt paraît en rétrospective comme le grand traducteur dans la réalité de la politique de cet adage de l'époque.
Au sommet du pouvoir, il poursuit le mouvement, cette ouverture sur la scène internationale. Grand européen, il cherche à faire avancer la construction d'une Europe politique. Et Willy Brandt met aussi en place ce qu'on nommera plus tard l'Ostpolitik, la politique de l'Est.
C'était une politique d'ouverture qui a eu des effets positifs au quotidien. Une véritable révolution extrêmement contestée à l'époque par la droite politique en Allemagne. Ce rapprochement vis-à-vis des régimes politiques est-européens dans lesquels la droite, l'opposition a vu une sorte de sanction, de légalisation du régime communiste est-allemand, c'est-à-dire l'Union soviétique. Alors oui, politique extrêmement contestée, mais politique aussi qui a eu certainement, là encore, des effets positifs pour les Allemands dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire cela a facilité les voyages. Et cette politique, évidemment, elle a mené à la reconnaissance, en fin de compte, de la RDA par les États occidentaux, comme la France, l'Angleterre, les États-Unis. Et vous savez, il y a eu une époque où la RDA était un membre des Nations Unies, comme la RFA.
Une politique pour laquelle il recevra d'ailleurs le prix Nobel de la paix en 1971. De quoi faire oublier souvent dans les livres d'histoire les évolutions de la société allemande pendant les années Brandt. Car au plan intérieur, de nombreuses réformes internes auront des répercussions sur le long terme. Loi sur le divorce, sur l'égalité homme-femme dans le couple, construction de lycées, développement des universités, décriminalisation de l'adultère et de l'homosexualité. Tout cela se passe sous sa mandature, même si ça provoque des débats politiques et sociétaux très agités qui sont restés dans les mémoires. Willy Brandt a même failli perdre son poste. C'est sous son mandat aussi, à la fin, que la majorité est abaissée à 18 ans. Le vote de la loi de l'abaissement de la majorité à 18 ans en Allemagne de l'Ouest à l'époque. Malgré ces avancées, Willy Brandt est contraint de se retirer de la chancellerie en 1974, pris à l'époque dans un scandale d'espionnage. L'un de ses conseillers, Günther Guillaume, se révèle en effet être un espion de la RDA, l'Allemagne de l'Est. C'est un scandale en République fédérale. Willy Brandt démissionne et sera remplacé par Helmut Schmidt une semaine plus tard.
Am Abend des 6. Mai habe ich dem Bundespräsidenten meinen Rücktritt erklärt.
Willy Brandt à la télévision qui explique à l'époque son retrait et donc sa démission du poste de chancelier. Le désormais ancien chancelier travaillera plus tard pour la Banque mondiale, sera membre du Parlement européen et président de l'Internationale socialiste jusqu'en 1992, l'année où il meurt à l'âge de 78 ans. Aujourd'hui, spécialiste politique ou historien évoque toujours un personnage historique dans l'histoire de l'Allemagne, celui qui a donné un nouveau départ au pays, celui sans qui la réunification n'aurait pas été possible, le grand porteur d'espoir qui a initié le changement dans la politique mondiale et réconcilié les Allemands avec leur histoire. Dans son parti, le SPD, il reste aussi la figure qu'on envie, bien souvent.
Als Willy Brandt Bundeskanzler war, hatte Vati noch volles Haar, war Moritz bleibt treu, noch kein Star, als Willy Brandt Bundeskanzler war.
Als Willy Brandt Bundeskanzler war, quand Willy Brandt était chancelier fédéral, papa avait encore tous ses cheveux, le squash n'était pas encore un sport, le climat était encore ok. Et quand Willy Brandt était chancelier, mon grand frère économisait pour s'acheter une Opel GT. Funny Van Denen, le chanteur, auteur et peintre allemand sur la DW avec cette chanson sur les années Willy Brandt. Chanson sortie après la chute du mur et la mort de Willy Brandt, il y a 24 ans, je vous laisse compter, en 1995.
Als Willy Brandt Bundeskanzler war, hatte Mutti noch goldenes Haar, waren Cindy und Bert.
Vue d'Allemagne, deuxième partie de ce magazine. On prend la direction de l'île d'Alonisso, à l'ouest de la Grèce en mer Égée, ou plutôt des côtes de l'île. C'est là qu'il est possible de visiter une épave vieille, accrochez-vous, de 2500 ans. De l'archéologie moderne, sous l'eau et accessible à tous, même sans se mouiller et sans enfiler un masque à oxygène, vous allez l'entendre. Une expérience inoubliable et dont espèrent bien profiter les populations locales. Reportage en bateau sur place de Thomas Jacobi.
Il fait frais et l'eau n'est plus très chaude. Pourtant, une dizaine de journalistes et d'archéologues s'apprêtent à plonger dans la mer cristalline des côtes d'Alonissos. Dimitris Korkoumelis, archéologue, donne les dernières instructions.
Au lieu d'ancrage, nous descendons jusqu'au fond. Les équipes se regroupent et on commence à avancer vers l'épave. La première halte sera pour avoir une vue d'ensemble de l'étendue du site. Nous remontons d'un mètre ou deux et vous allez voir devant vous toute cette énorme colline d'amphore. Ces vases en terre cuite à deux anses pour transporter des denrées qui se terminent en forme de pointe. Vous comprendrez alors ce qu'était un chargement d'un bateau dans l'Antiquité. Dans le quart des fouilles, vous verrez à votre droite et à votre gauche un mur énorme formé d'amphores sur 3 à 4 couches superposées qui s'élèvent devant vous.
Avant de donner le feu vert, Dimitris Korkoumelis rappelle les consignes. Elles s'appliquent à tout le monde.
Je veux que tout le monde respecte les règles de plongée, pas comme la dernière fois où chacun n'en a fait qu'à sa tête. Personne ne s'éloignera sous aucun prétexte. Je serai intraitable. Je suis à bout vraiment. Je le répète. Tout le monde va se conformer aux instructions.
But de la plongée, l'épave antique de Peristera, qui date de 2500 ans. Sa découverte a totalement bouleversé les connaissances du monde antique et tire son nom du petit îlot à moins d'une demi-heure d'Alonissos. La première à plonger, c'est Maria Salomidi, océanographe. Une demi-heure plus tard, elle sera aussi la première à remonter.
J'étais pas persuadée que j'allais voir quelque chose d'exceptionnel. Des amphores, on en a tous déjà vu dans les musées et même dans la mer. Ça t'arrive d'en voir une de temps à autre. Mais là, c'est unique. Le volume du chargement de l'épave est réellement très impressionnant. Le site est très beau. Le fond marin accessible et accueillant. Cette plongée, je la recommande vivement.
Comment ne pas recommander une telle plongée dans le passé? Un tel naufrage n'existe nulle part ailleurs. Plus de 4000 amphores alignées les unes à côté des autres, avec des poissons multicolores qui tournent autour. À croire qu'ils sont enivrés du nectar qu'elles contiennent peut-être encore. La lumière du jour qui arrive tamisée jusqu'au naufrage donne à tout ce site oublié un air fantasmagorique. Petros Vafinis, le maire d'Alonissos qui a supervisé toute l'opération, est aux anges.
Il n'y a jamais rien eu de tel jusque-là en Grèce et à mon avis, cela va être une clé importante pour le développement économique de la région. Ça va créer beaucoup de nouvelles places de travail et nous aurons une extension de la période touristique sur l'île. C'est surtout ça l'enjeu. Alonissos est une île écologique. Ce qu'on recherche n'est pas une augmentation dans le nombre des visiteurs, mais leur qualité sur la durée de la saison. Les mordus de la plongée sont justement en plein dans notre philosophie. Ce profil de tourisme de plongée est fait sur mesure pour l'île d'Alonissos.
Le lendemain de cette plongée, on se retrouve tous dans une salle de la mairie pour découvrir que désormais, les malvoyants, ceux ou celles qui ne peuvent plonger, auront le même accès au site archéologique que les plongeurs ou plongeuses chevronnées. Angelos Maglis, plongeur instructeur, nous explique comment, à grand renfort de graphiques, photos et cartes sous-marines.
Les sites de plongée seront jumelés avec des centres d'information pour les visiteurs. Ces centres auront une petite entrée. Ils seront gérés par la municipalité, pas par le ministère de la Culture. Et là, le visiteur trouvera, en plus des moyens habituels de documentation, photos, vidéos et articles, des technologies de présentation comme les hologrammes, si bien qu'avec un casque à réalité virtuelle, le visiteur pourra suivre à sec la plongée comme s'il y était. Il y a de même un modèle en 3D du naufrage de la taille d'un mètre qui permettra à des personnes à visibilité réduite de le toucher et se faire une image.
L'UNESCO a inscrit les sites marins archéologiques au patrimoine de l'humanité. Aussi, les recherches continuent en Grèce pour localiser d'autres naufrages connus d'après les écrits anciens. L'archéologie sous-marine est plus prometteuse que l'archéologie terrestre. Et de plus, elle va drainer un nouveau type de tourisme de haut niveau des plus bénéfiques pour le pays. Mais elle nécessite des fonds dont manque le pays, d'où la recherche active d'investisseurs privés et de sponsors.
Au son de la mer, reportage de Thomas Jacobi, à retrouver et à partager depuis le site de la DW. Vous trouverez tout cela dans la médiathèque où sont aussi les podcasts des anciens numéros. Celui d'aujourd'hui se termine. Vous retrouverez Anne Letouze la semaine prochaine à la même heure. Merci à vous pour votre écoute cette semaine. Merci à l'historien Klaus Peterzig pour ses éclairages et à Thomas Jacobi pour son reportage. Je vous souhaite à vous, alles Gute, tout bon. Prenez soin de vous. Bis bald et à très bientôt. Tschüss.